sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le jeudi 29 mars 2012, Danielle Salnave, écrivain, traductrice et chroniqueur de radio, élue à l'Académie française le 7 avril 2011, a été reçue sous la coupole de l'Institut de France. Elle a, selon l'usage, prononcé l'éloge de son prédécesseur, Maurice Druon, décédé en 2009. Son confrère Dominique Fernandez de l'Académie française a prononcé en réponse un discours présentant l'œuvre et le parcours de la nouvelle élue devant ses confrères et de nombreux invités. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission de cette séance solennelle.
La séance est ouverte. La parole est à Madame Danielle Salnave pour la lecture de son remerciement.
Le premier titulaire du fauteuil, où vous avez bien voulu me faire l'honneur de m'appeler, mesdames et messieurs de l'Académie, se nommait Honorat de Bueil, seigneur de Racan. Doux rêveur, ce poète à qui Boileau trouvait du génie, était malheureusement affligé d'un fort bégaiement. Et il ne parvint jamais à dire correctement son nom. Par bonheur, il n'eut pas à prononcer de remerciements lors de sa réception à l'Académie. L'usage n'en fut établi que lors du premier renouvellement. Mais qui, à vrai dire, en cet instant solennel, ne redouterait de voir sa langue s'embarrasser et le flot de son éloquence se réduire à un mince filet de bredouillements hésitants et confus? C'est pour cela que je me contenterai de ce simple mot « merci » pour vous dire ma reconnaissance, mais chargé de tout ce que l'esprit et le cœur peuvent y mettre. Merci pour votre confiance. Merci pour cette preuve que vous donnez en m'accueillant de votre esprit de liberté. Je n'aurais garde en effet d'oublier que je suis la première femme, non pas à entrer dans votre illustre compagnie, mais à occuper ce fauteuil. Et je n'ai pas de peine à mesurer le chemin parcouru. Quelques-uns de mes prédécesseurs pensaient en effet sûrement, comme Samuel Johnson, qu'une femme qui écrit est comme un chien qui danse. Ce n'est pas qu'elle le fait bien, mais on s'étonne de le lui voir faire. Ce ne serait cependant pas rendre justice à l'Académie qui très tôt s'était émue de ce discrédit porté sur notre sexe. Dès 1674, 3 siècles avant que des femmes y fassent leur entrée, le prix de l'éloquence de l'Académie française revenait à Mademoiselle de Scudéry pour son discours sur la gloire. Et une vingtaine d'années plus tard, en votant pour le philologue André Dacier, la Bruyère regrettait de ne pas pouvoir le faire plus tôt pour Madame sa femme, la grande helléniste, membre, comme Mademoiselle de Scudéry, de l'Académie florentine des Ricovrati. Mais il est une autre preuve de votre esprit de liberté qui m'est plus cher encore, mesdames et messieurs de l'Académie. En me faisant entrer sous l'or et la majesté de la coupole, vous faites entrer avec moi la petite salle de classe où j'ai passé mes premières années, le village des bords de Loire où mes parents enseignèrent au milieu du siècle dernier, et avec eux la longue lignée dont je suis fille et petite-fille de ces instituteurs qui avaient l'amour du savoir, l'amour de la transmission et surtout l'amour d'une langue, la langue française. Je crois d'ailleurs reconnaître mes parents dans le portrait que fait mon prédécesseur, Maurice Druon, de son instituteur normand au premier volume de ses mémoires. Il avait 30 ou 40 enfants à instruire, répartis en 3 cours, et s'en arrangeait bien, passant des uns aux autres sans laisser de temps mort, faisant épeler les petits, tandis que les grands résolvaient un problème d'arithmétique. L'hiver, il rechargeait de temps en temps, avec des bûchettes, le gros poêle de fonte. Ce lien invisible et puissant, qui aux deux bouts d'une longue chaîne relie la prestigieuse académie à une modeste école de village, permettez-moi d'y voir un des traits constitutifs d'une nation qui a toujours confié à sa langue le soin de sa grandeur. « Quiconque franchit votre seuil, écrivait Maurice Druon dans son discours de réception à l'académie, doit d'abord hommage à la mémoire de son fondateur, le cardinal de Richelieu. Je ne saurais manquer à cet usage et j'aurais voulu aussi, avec ce sentiment de fidélité grave et profond qui est au cœur de la succession académique, évoquer quelques-uns de ceux qui ont occupé avant moi ce fauteuil. J'aurais voulu avoir le temps de saluer Georges Duhamel, prédécesseur de Maurice Druon, et comme lui, secrétaire perpétuel de l'Académie, dont les grands cycles romanesques bercèrent ma jeunesse. Je voudrais au moins rendre à Antoine Léonard Thomas la paternité du beau vers que Lamartine sans scrupule lui vola, autant suspend ton vol. Mais je ne m'arrêterai que sur la figure d'Ernest Legouvé, élu en 1855, auteur dramatique passionné d'escrime, mais aussi passionné pour l'éducation des filles, et qui en 1881, au terme d'une longue carrière, fut nommé directeur des études de l'École normale supérieure de Sèvres, qui venait d'être créée et où je suis entrée 80 ans plus tard. Mais je sens bien que je ne me suis que trop attardée. Maurice Druon n'était pas quelqu'un qu'on fait attendre. Maurice Druon était né au son du canon, dit-il, dans les premières heures du 23 avril 1918. Naître en avril 1918, c'est naître l'année de la victoire. C'est naître aussi sous le signe du taureau. Maurice Druon croyait à un système de correspondance entre l'homme et le cosmos. Il en avait eu la preuve. À Rome, en 1948, une astrologue autrichienne lui prédit un grand événement en rapport avec ses livres. Cette année-là, il a justement le Goncourt. Le taureau est, dit-on, traditionnaliste et conservateur. Il aime les choses de la vie, il a le goût de la possession. Esthète, raffiné et charmant, il est capable de fortes colères. N'est-ce pas là un portrait fidèle ? Signe qu'un grand destin l'attend, Maurice Druon aura dans sa vie plusieurs occasions d'être ou de renaître. À 10 ans, il a une péritonite. Cette mort évitée lui vaut un voyage où, dit-il, je pris la conscience physique du pays qui était ma fierté et que j'aspirais à servir avec éclat. Nouvelle mort évitée en 40. Les balles sifflent près de sa tête. Bah, « Couchez-vous, bon Dieu, dit le colonel, moi je peux pas, je suis cardiaque. » Avouez qu'il eût été dommage que ma carrière prît fin si tôt, commente Maurice Druon. Tous les enfants ne naissent pas dans les mêmes conditions. À sa naissance, les siennes sont les plus mauvaises qui soient. Il se retrouve muni de plusieurs prénoms. Maurice, Samuel, Roger, Charles, mais d'aucun nom légitime. Au fond, ça aurait peut-être été mieux que pour tout le monde que cet enfant ne naisse pas. Pour sa mère, Léonilla, mariée, séparée de son mari. Pour son père, Lazare Kessel, qu'on surnomme Lola, le jeune frère de Joseph Kessel. Lazare, lauréat du premier prix du conservatoire, pensionnaire de la Comédie française, Lazare Kessel se suicide par balle le 27 août 1920 à l'âge de 21 ans, sans avoir reconnu son enfant. Maurice Druon naît donc enfin et vraiment, car naître, c'est avoir un nom. Lorsque, 7 ans plus tard, sa mère épouse René Druon de Reignac. René Druon lui donne son nom et l'élève. C'est une naissance romaine qui nous vaut de belles pages sur l'adoption et un éloge de l'homme autant que de son geste. Homme noble, loyal et droit, élégant, colérique, jupitérien, oh, pas un intellectuel, Dieu merci. Il commence par habiller l'enfant comme il faut. C'est un mondain riche qui n'a pas achevé ses études de droit. Quant à Léonilla, sa mère, une mère de tragédie, dit sobrement Maurice Druon. Et il cite Alexandre le Grand, « Les mères nous font payer le prix fort, cher loyer pour 9 mois de logement. » À propos de Jean Genet, autre bâtard illustre, Sartre, comme Maurice Druon n'aimait guère, évoquait ces issues qu'on invente dans les cas désespérés. Les voies que se choisira Maurice Druon relèvent de cette invention-là, mais formulées dans le langage de la grandeur et du mythe. Car la naissance illégitime n'est pas pour lui un opprobre, c'est un signe d'élection. Dans la préface à son Alexandre le Grand, il rappelle que, par le mystère qui entoure leur naissance, le héros grec Thésée, ou encore Romulus, le fondateur de Rome, et Alexandre lui-même, étaient réputés de naissance divine. D'ailleurs, Maurice Druon lui-même, comme l'aurore, vient du fond du ciel, titre du premier volume de ses mémoires. Jusque dans les circonstances de sa naissance, rencontre de deux êtres, mais aussi de deux continents. Côté maternel, le Brésil, incidemment la Narbonnaise. Brésil, son arrière-grand-père est Odorico de Mendes, homme politique, écrivain, ami de l'empereur Dom Pedro et républicain, protecteur du 17e fauteuil de l'Académie brésilienne des lettres, traducteur en portugais d'Homère et de Virgile. Narbonnaise, l'autre arrière-grand-père de Maurice Druon est Antoine Cros, frère de Charles Cros, le poète, l'inventeur du paléophone, cet ancêtre du phonographe. Antoine Cros fut le troisième et dernier roi de l'étrange royaume patagon d'Araucanie. D'où la remarque de Pasteur Valéry Radeau, accueillant Maurice Druon sous la coupole, « Vous êtes, monsieur, fils de roi. » Côté paternel, la Russie. Lazare Kessel, le père de Maurice Druon, Joseph Kessel, dit Jeff, et Georges, le troisième enfant, sont les fils de Samuel Kessel, médecin d'origine lituanienne, à l'époque en Russie impériale, qui vient passer son doctorat à Monte-Carlo, puis part exercer en Amérique du Sud avant de s'installer en France. Samuel Kessel avait épousé Raïssa Lesk, fille de riche marchand d'Orenbourg, dans l'Oural. Orenbourg, cette ville, je cite, mi-orthodoxe, mi-musulmane, avec ses églises à bulbes d'or et ses minarets superbes. Une photographie de l'époque montre l'immense caravansérail des Lesk, vêtu d'amples caftans, la tête enturbanée. Dans sa propriété de Fès, près de Libourne, Maurice Druon a gardé au mur de sa salle d'archives deux documents encadrés où figurent les noms de Lesk et de Kessel en caractère cyrillique orné d'avant la Révolution. Origine brésilienne d'un côté, juive de l'autre. Juive, plus exactement, Khazar. Maurice Druon se dit et se veut le descendant des Khazars, l'Empire oublié, cette vaste théocratie marchande qui, du 7e au 10e siècle, allait du Caucase à Kazan. Ce sont des Turcs, réfugiés dans les marais autour des 70 embouchures de la Volga, polythéistes jusqu'à ce que, en 740, ils décident d'adopter la religion juive pour, dit Maurice Druon, des raisons parfaitement politiques. La dynastie des Khazars s'éteint définitivement en 1046, restent les descendants de son peuple. S'il a choisi de raconter leur histoire, dit Maurice Druon, en s'inspirant du livre d'Arthur Kessler, La 13e tribu, c'est parce que cela nous oblige, dit-il, à regarder d'autres manières qu'on ne le fait ordinairement les Juifs d'Europe orientale. La première conséquence est, je le cite encore, que le terme d'antisémitisme forgé à leur encontre est un pur non-sens. Il y avait fort peu en Khazarie de sang sémite. Descendants des Khazars, les Ashkénas sont un peuple industrieux, bâtisseur, organisateur. Ce sont eux, ajoute-t-il, qui ont fondé l'État d'Israël. Si le destin que Maurice Druon se choisit est une revanche ou une compensation, ce sera une revanche éclatante, une compensation grandiose, au prix parfois d'une ambiguïté, car le projet de devenir soi risque parfois de se confondre avec celui de devenir quelqu'un. Cette hésitation gouvernera toute sa vie, elle marque déjà les débuts d'un enfant assoiffé de reconnaissance. Il n'a pas 10 ans, que déjà l'Académie française lui fait signe, avec la rencontre de Pierre Thureau d'Engin, dont le père avait été secrétaire perpétuel de l'Académie, comme lui-même le sera, et qui salue dans le petit garçon un futur grand homme. La première fois qu'il a entendu la TSF, c'était le discours de Maurice Paléologue à l'Académie française et la réponse de Louis Barthou. Ce n'est plus un destin, c'est une prédestination. D'où le choix de ces modèles, des figures, des symboles, quasi mythologiques, jupitériens, herculéens, à la hauteur de cet immense projet où se résorberaient les failles de l'enfance. Il y eut un Druon, géant des Flandres, un autre qui fut un saint. Et Maurice Thorez, d'ailleurs, raconta un jour à Maurice Druon que, enfant, il était allé l'honorer en pèlerinage. Il y aura Joseph Kessel, à la crinière de Lyon, aux appétits et aux débauches grandioses, l'homme aux femmes multiples, ce faussaire dans le genre d'Homère, disait son neveu. Mais par-dessus tout, il y a la France, qui lui a donné une patrie, une terre, un nom, une langue. Fin 42, traversant en compagnie de Jeff l'Espagne et le Portugal pour rejoindre De Gaulle à Londres, Maurice Druon s'arrête un moment. Il se retourne vers le pays qu'il s'apprête à quitter. « D'une telle place, écrit-il, en un tel moment, le mot « patrie » prend un sens qu'il n'a jamais eu, mais qu'il ne perdra plus. C'est une réalité visible, vivante, s'en séparer est un arrachement quasi charnel. » La France Mais c'est d'abord la série illustre de ces grands écrivains, l'alignement de leurs œuvres complètes, auxquelles le jeune Maurice rêve d'ajouter les siennes. « J'ai été élevé devant des livres, dit-il, dans la fréquentation des grands modèles, de ceux à quoi on n'atteindra pas. La carrière littéraire sera pour lui un des moyens de rendre à la France et à sa langue ce qu'il leur doit, et ce sera en même temps un marchepied vers la gloire. Et plus le temps passera, plus ce grand modèle, cette grande référence, la France, sera figée dans une image quasi sacrée. Plus il sera nécessaire qu'elle reste ce qu'elle est, ou ce que l'enfant désirait qu'elle fût, quelque chose de grand et surtout d'immuable. » Léonila et René Druon se marient, tous deux souhaitaient faire une fin. Ils s'installent avec l'enfant en Normandie, à la Croix-Saint-Leufroy, où ils vont rester quelques années. « Je n'ai pas aimé l'enfance, dit Maurice Druon, et pourtant. » Il fait le tableau d'années heureuses, à la campagne, entre les briques roses de l'école républicaine et le latin que lui enseigne le curé. C'est la France d'avant, encore peu touchée par la modernité. C'est le passage du pittoresque colporteur, du planteur de Caïfa. Ce sont les processions d'érogation. La terre de France, écrit-il, y prend pour toujours consistance et vérité. Son appétit de lecture et d'écriture se voit décuplé par la solitude dans ce monde immobile. Il est reçu avec mention au certificat d'études, en récompense de quoi on lui offre un voyage à Saint-Malo, l'hôtel, qui existe toujours, et la maison natale de Chateaubriand. Il fait sa première communion avec le père Padet, qui mettait 4 sucres dans son café, mais avait un regard qui vous remplissait l'âme. Puis tout change. La grande crise de 1929 ruine René Druon qui vivait de ses rentes. On se retrouve en 1930 à Clamart, où René Druon va tenter de nourrir sa famille en montant un élevage de volailles. Maurice Druon prend l'habitude de ces renversements du destin. Beaucoup plus tard, répondant à Pierre de Boisdeffre qui lui parle de sa chance insolente, il éclate. « Mais j'ai crevé de faim autant qu'un autre. » Le bonheur continue de lui venir de ses lectures, de ses études, de ses professeurs, du lycée Michelet à Vanves. Sa nature le porte vers les humanités et il gardera toute sa vie le goût des dictionnaires de Bailly et de Gaffiot. L'époque le déçoit, notamment le surréalisme, parce que, dit-il, l'anarchie dans le verbe m'a toujours paru aussi haïssable que dans la société. Ce qui dessine un futur parcours d'écrivain et d'homme politique. Son poète d'élection, c'est Henri de Régnier, dont il cherchera plus tard les traces à Venise sur les intérêts. Il voudrait le rencontrer. Mais celui-ci meurt le 23 mai 1936. Maurice Druon a 18 ans. Il se rend à ses obsèques, leur solennité. La vue des académiciens en habit lui fourniront le premier chapitre des grandes familles. Il se rêve un enterrement d'académicien. C'est alors que, par hasard, il apprend que Lazare Kessel, son père biologique, s'était suicidé. Ce fut, dit-il, comme si la foudre m'était tombée dans l'âme. Mais Maurice Druon n'est jamais seul. Jupiter veillait, écrit-il. En 1936, il obtient le 2e prix au concours général. Sa copie commençait non pas par J'accuse, mais par J'enrage. Par son faste d'or et de tapis rouge, la remise du prix est comme une vision prémonitoire de sa future réception à l'Académie. Mais pour l'heure, âgé seulement de 18 ans, élève à la Faculté des Lettres de Paris, puis à l'École libre des sciences politiques, il commence à publier dans les revues et journaux littéraires. Ce sont les années du Front populaire. C'était, dit-il, le temps des aveugles. Les gouvernements succèdent. Mussolini tient à Rome depuis 1922. L'Espagne est en feu. Hitler occupe la rive droite du Rhin. Maurice Druon, jeune patriote, tendance monarchie constitutionnelle, classique dans ses goûts, mondain dans ses habitudes, se perfectionne en équitation. « Je fus, dit-il, l'un des derniers Parisiens à remonter, comme le fit longtemps la société aristocratique, les allées cavalières de l'avenue Foch en direction du bois. » Il lui arrive de prendre le métro, en habit noir et gants blancs, pour conduire des jeunes filles à des soirées. Il cherche un successeur à Henri de Régnier. Ce sera Fernand Greg, qui fut 13 fois candidat à l'Académie avant d'y être élu. Fernand Greg avait 2 enfants, Didier et Geneviève. Une romance naît entre Didier et Lucifort et une autre entre Geneviève et Maurice Druon. Tout ce beau monde part pour une croisière aux Antilles. Ils sont de retour à Dieppe le 23 septembre 1938. Les accords de Munich sont signés le 30. Fin de sa jeunesse, fin d'un monde. Il était prêt à combattre, la France ne l'est pas. Le Front populaire et sa victoire ont traumatisé, dit-il, la bourgeoisie, qui s'accommode mieux du péril brun que du péril rouge. Renvoyé à sa rage, solitaire et impatient, Maurice Druon ne songe qu'à vivre sa vie de jeune écrivain classique, plus que jamais ennemi d'André Breton, ce fils de gendarme. C'est ainsi qu'Aragon, qui fut son ami et le mien, le nommait, je m'en souviens encore. La vie mondaine reprend. En novembre, Maurice Druon se rend à une réception donnée par la dernière maîtresse d'Henri de Régnier, vêtue d'ample mousseline, la poitrine peu abondante mais soulevée de soupirs. Le lustre laisse tomber ses coulures de bougie sur Georges Lecomte, autre futur secrétaire perpétuel de l'Académie, et qui pour l'heure, saupoudré de stéarine, semble couvert de fiente blanche par tous les pigeons du bois de Boulogne. Pendant qu'on s'amuse, de l'autre côté du Rhin, les forges grondent et une autre jeunesse marche, au pas de loi. En 1939, Joseph Kessel, le dionysiaque héracléen, enfin s'intéresse à lui. Je lui procurais le sentiment d'avoir une descendance. Autour de Jeff gravitent des personnages marqués par une vie forte, aventureuse. Les as de l'aéropostale, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet. Des femmes aussi, Katia Gangart, née au nord de l'immense Russie. Germaine Sablon, sœur de Jean Sablon. Des musiciens de cigane, des chanteuses de cabaret. Tous ces personnages sont dressés dans ma mémoire comme au long d'une voie appienne de l'étrangeté. Et il y a aussi Gaston Gallimard, rond, replet, gris et rose, qui ressemblait à un notaire de province. Ne pouvant partir en Espagne, il entreprend sa première pièce, Mégaré. On voit que les grandes figures de l'Antiquité héroïque et mythologique ont précocement hanté l'imagination de Maurice Druon. Fin août, signature du pacte germano-soviétique, l'angoisse prend les Français à la gorge. Grâce à Joseph Kessel, Maurice Druon dîne avec Pierre Lazareff. Hitler est en train de prononcer un discours. Il se passera rien tant qu'il parle, dit Lazareff. Le discours fini, Hitler envahit la Pologne. L'état de guerre est proclamé. En quelques heures, le jeune Maurice a écrit un article que Kessel porte à Lazareff et qui est publié. J'ai 20 ans et je pars. Il en est encore fier 40 ans plus tard. Je coïncidais avec un moment de la conscience collective. La guerre est là. Elle va lui donner l'occasion de manifester avec éclat l'attachement qu'il a envers la France et sa liberté. Mais son destin est d'abord celui de milliers de Français mobilisés puis englués dans la drôle de guerre. Sa passion du cheval le tient toujours. Il prépare l'école de cavalerie de Saumur. Épouse Geneviève, drame chez les Grecs. Il est reçu à Saumur à une place moyenne. Mais à Saumur, son image de la France se fixe pour toujours dans les couleurs que Balzac lui a données. Rue vide, pâle reflet de la pierre de tuffeau blanc, flot puissant de la Loire, ce boulevard de nos rois, les blanches gentilhommières entourées d'un beau parc dont les prairies déclives sont ornées par de douces rivières, y témoignent, plus qu'ailleurs, des temps d'avant la médiocrité. La médiocrité moderne, démocratique. Petite déception, à Saumur, il est versé dans la cavalerie motorisée. Il sera cambouis et non crottin. Aime-t-il l'armée ? Oui. Il n'aurait pas détesté y faire carrière. Cependant, en 1964, il écrit « Trop longtemps porté, le casque déforme la tête ». La drôle de guerre se traîne, la guerre est courte, la défaite foudroyante. En juin 40, tout est fini. Il est en Dordogne, dans une unité motorisée. Une voix dit « Ça y est, mon colonel, ça y est, elle est signée, cet armistice. » Le colonel a un coup de sang. Et lui, il reste tout penaud, avec ses chenillettes ridicules. « Si nous fûmes vaincus, » commente Maurice Druon, « ce n'est pas parce que les Français ne voulaient pas se battre. C'est la faute de l'état-major, de son impéritie. C'est aussi la thèse de Marc Bloch dans son livre « L'étrange défaite ». C'est donc bien une douleur qui le tient, mais une douleur grandiose. L'identification avec le malheur de la France. J'écris ces lignes le 16 juin 2006, 66 ans jour pour jour, après les drames que je relate et qui m'ont laissé dans l'âme une blessure jamais cicatrisée. Mais le ton dramatique s'accompagne toujours chez Maurice Druon d'une ironie mordante et drôle. Tandis qu'il enregistre son discours final et fatal, Paul Reynaud est accompagné de sa maîtresse, Madame de Porte. Ils ont oublié qu'on entendait toute leur conversation. Appuie davantage sur cette phrase, chérie. Le 14, les Allemands sont entrés dans Paris. Un espoir encore, la bataille de la Loire. La Loire serait notre Marne, hélas. Le colonel leur intime l'ordre de rester avec leurs hommes. Pétain est meilleur juge que de Gaulle de l'honneur de la France. Nous touchions là, dit Maurice Druon, le fond de la honte. À Tarbes, dans l'armée de l'armistice, armée fantoche, il garde au moins son cheval, un anglo-arabe, l'une des races qu'il préfère et qu'il a monté jusque dans ses dernières années. La résistance est à l'ordre du jour, cela ne pose même pas de question, mais après sa démobilisation, il reste en zone libre, fait représenter Mégaré au théâtre de Monte-Carlo. La même année, il compose une chanson. « J'ai pas tué, j'ai pas volé ». Le Galérien, sur une musique traditionnelle russe. Oh, les multiples facettes de ce grand destin. Juillet 42, enfin un peu d'espoir grâce à la Russie et grâce aux communistes français qui vont pouvoir enfin rentrer dans le jeu. Maurice Druon a rejoint Kessel et Germaine Sablon à Antéor, près de Saint-Raphaël, sur une photo de l'époque, l'un massif, l'autre gracile et fin, tous deux en costume de bain. Jeff et lui se ressemblent beaucoup. Quand le 11 novembre, les Allemands envahissent la zone Nono et que l'armée fantoche est démobilisée, l'inquiétude gagne toute l'ancienne zone libre et tout particulièrement les Juifs. Cependant, Laval a donné un passeport à Jeff. Preuve, dit Maurice Druon, qu'il respectait le talent et même le talent juif. Kessel a refusé le passeport, mais il hésite toujours à franchir le pas. Maurice Druon le décide, il traverse clandestinement l'Espagne et le Portugal et dans une tempête de neige, pour ne pas se perdre, ce récit de grand vers français de Corneille à Rostand. À Londres, il rejoint de Gaulle et les rangs des forces françaises libres, matricule 33-623. L'Angleterre, ses mœurs, le courage du peuple et de la famille royale, leur sens du sacrifice, lui resteront toujours gravés au cœur. Et même la gentillesse de son butler, qui ne voulant pas lui faire de peine, annonçait le mauvais temps en ouvrant ses rideaux par ces mots « Nice rain today, sir ». Rien d'exceptionnel pour lui à Londres. À aucun moment, il ne participe à des affaires difficiles, encore moins dangereuses. Aide de camp du général François Dacier de la Vigerie, puis attaché au poste Honneur et Patrie, il sera correspondant de guerre auprès des armées françaises jusqu'à la fin des hostilités. « Mais j'ai eu des maîtresses charmantes », commente-t-il. L'action se dérobe, l'écriture ne se décide pas, même s'il rédige la première préface au Silence de la mer, publiée en 1943 à Londres dans les Cahiers du silence. C'est alors que le destin frappe son plus grand coup. Sur l'instigation d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, Joseph Kessel et lui composent en une après-midi le Chant des partisans, qui, sur une musique d'Anna Marley, deviendra l'hymne au mouvement de la résistance. « J'ai, dit-il, glissé un feuillet dans les pages de l'histoire. Un instant, la conscience du peuple est passée par moi. » C'est lui qui le chante la première fois. Kessel n'avait pas l'oreille musicale. Kessel disait « Je reconnais la Marseillaise parce que c'est là qu'on se lève. » Le manuscrit a été classé monument historique. En 1944, coincé au Maroc, Maurice Druon ne participe pas à la libération de Paris. « Frustré d'aventure, dit-il, je ne serai pas sur la liste des héros, mais sur la liste des témoins. » La victoire, cependant, est là. Ses causes, l'opiniâtreté anglaise, le matériel américain, le sang russe. Maurice Druon gardera toujours des liens très forts avec la Russie, alors l'URSS. Il y fait son premier voyage en 1951, il en fera beaucoup d'autres, dont un mémorable en 1961, en compagnie de sa seconde épouse Madeleine, voyage qui les mène de Leningrad à Odessa, à bord d'une Bentley. Et l'un des derniers, tard, pour chercher, au sud de l'Oural, les racines de sa famille. Il trouvera en URSS ses lecteurs les plus nombreux, 23 millions, aimait-il à répéter, pour les rois maudits. On parle de moi là-bas comme d'Alexandre Dumas. Avec la guerre, la résistance, le séjour à Londres, de grandes fidélités sont nées, pour toujours et à jamais, envers le gaullisme d'abord, parce que tout s'effondre quand le sentiment de la patrie disparaît. Dans un article retentissant, publié par Le Figaro le 17 juin 1998, et qu'il intitule « Ne vous appelez plus gaulliste », il écrit « Gaulliste est le vocable que ma génération aura ajouté à l'histoire ». Et il tonne contre ceux qui ont dénaturé le gaullisme le jour où, sans que nous nous en apercevions, le vieux rassemblement du général a été transformé en un ascenseur destiné à hisser un présidentiable. Gaulliste, fidèle à l'esprit de la résistance, fidèle à la mémoire des peuples qui ont résisté. L'URSS, la Russie, l'Angleterre, mais aussi la Grèce. Dans un petit film où on le voit marchant dans les ruines d'Olympie, il rappelle qu'en 1941, les habitants d'Athènes occupés, entendant venir les bombardiers alliés, avaient allumé toute leur lumière afin de se constituer en cible pour les aviateurs. Fidèle enfin aux résistants français. En 1997, dans un témoignage qui fit beaucoup de bruit au procès Papon, il s'indigne. Aujourd'hui, on ose faire un tri parmi les déportés, on fait passer les résistants au second plan, comme s'ils avaient mérité leur sort. Le temps de la guerre est fini, celui de la littérature commence. Suite nécessaire, car, dit-il, tout homme cherche à prolonger sa durée biologique, à se rattacher au passé, à se projeter dans l'avenir. Publié en 1948, Les Grandes Familles incarne sans doute pour la dernière fois en France la grande tradition classique du roman de société et de mœurs. On ne peut relire sans être grandement impressionné cette peinture au vitriol des mœurs d'une société que Maurice Druon connaît bien, celle qui détient l'argent et le pouvoir. Il s'est senti très tôt attiré par les formes de la respectabilité qu'elle seule peut conférer. Mais il en a perçu très tôt aussi l'impitoyable cruauté qu'il décrit impitoyablement. Mort par suicide d'un fils qu'on y a poussé, page terrible sur l'abandon d'une orpheline qu'une tante mondaine rend à son orphelinat quand elle s'aperçoit que la petite compromettrait sa saison à Monte-Carlo. Page terrible aussi sur le naufrage de la vieillesse, même comblée d'honneur, sur ces galeries de vieux monstres conservés dans l'alcool de la gloire. La célébrité lui vient aussitôt, avec le prix Goncourt, il a 30 ans. Une célébrité plus grande encore lui viendra avec sa saga historique « Les rois maudits », dont la composition lui prendra 12 ans, de 1955 à 1977. Suite romanesque, qui repose sur la malédiction prononcée sur le bûcher par le grand maître du temple Jacques de Molay contre le roi de France Philippe le Bel, le pape Clément V et Guillaume de Nogaret. Ose en couleur, les titres dessinent à eux seuls une fresque où la France, pendant quelques années, s'est reconnue, et peut-être davantage encore lorsqu'elle fut portée à l'écran. Chacun les a en mémoire, le roi de fer, la reine étranglée, les poisons de la couronne, la loi des mâles. C'est un fragment de notre roman national à quoi Maurice Druon a attaché pour toujours son nom. Il n'a jamais caché que c'était le résultat d'un travail d'atelier. « Des nègres », dit-il, à la télévision le 27 mai 2006, « peut-être, mais j'ai dû tout réécrire. » Et sur ses ouvrages, de nombreuses paperoles, des ratures et des corrections innombrables en témoignent. Tout lui réussit. Mais n'est-ce pas ce que voulait le petit garçon sans père ? Il mêle les genres. S'essaie au conte pour enfants avec Tistou les pouces verts en 1957. Publie un roman mythologique, Alexandre le Grand, 1958, suivi des Mémoires de Zeus. Oui, il est un écrivain populaire parfaitement, et se veut tel, même s'il ne parle pas du peuple. Il est populaire au sens où l'était le théâtre grec, qui s'adressait aux savetiers et à l'archonte. Et en forçant tout de même un peu la provocation, il se voit comme un écrivain engagé. On est engagé parce qu'on est homme, écrit-il, et parce qu'on vit. Puis vient le grand moment qu'il appelait de ses vœux depuis sa petite enfance et la rencontre de Pierre Thureau d'Angin. Le 8 décembre 1966, Maurice Druon est élu à l'Académie française, au 30e fauteuil, succédant ainsi à Georges Duhamel. Il a 48 ans, il y restera 43 ans, presque la moitié de sa vie. Il en sera le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Un an après son élection, dans une interview télévisée, il déclare « C'est l'une des plus grandes joies de la vie d'un écrivain qui aime sa langue. » Joie d'écrivain, oui, mais aussi joie, orgueil de participer à la majesté de l'Académie, à sa grandeur. Elle est souveraine en matière de langage. Et comme la langue se confond avec la civilisation, c'est de la France elle-même qu'il s'agit. L'Académie en est la façade dans le monde. Au fronton, il fallait que le nom de Maurice Druon fût inscrit. C'est fait. Peu d'académiciens auront à ce point confondu leur vie et leur action avec celle de l'Académie. Là, enfin, tout se conjugue, tout se rassemble. Là, enfin, se voit conjurer la grande menace obscure de la naissance. Où trouver une légitimité plus grande que dans cette assemblée, la plus ancienne assemblée d'Europe, après la Chambre des Lords et l'Académie florentine. Quiconque a senti très précocement le danger de n'être pas ou de n'être rien ne peut que viser à la stabilité, à la permanence. Si reconnue soit-elle, l'œuvre demeure toujours un coup de dé, tandis que la force supérieure de l'Académie est dans son pouvoir symbolique, sa permanence, sa capacité à résister au temps, son inscription dans la pierre, dans l'histoire et dans la loi. C'est dans les temps de mutation que sont précieuses des permanences, dit-il. L'homme, devant le précipice de l'avenir, cherche sous sa main les rambardes du passé. Pas question donc qu'on puisse attenter à des lois qui ont traversé les siècles. Pas question donc, par exemple, qu'une femme puisse y entrer. On connaît son mot fameux. L'Académie se retrouverait, dit-il, avec 40 bonnes femmes tricotant aux séances du dictionnaire. Les tricoteuses, en France, ont une réputation de grande sauvagerie. Elles transportaient leurs tricots aux séances de la Convention et jusqu'au pied de la guillotine. Elles mettraient l'Académie à feu et à sang. Le croit-il vraiment ? C'est une réplique de théâtre, théâtralement accentué, le mot d'un homme que la nouveauté hérisse, mais qui sait, quand il le faut, reconnaître que la force et le talent n'ont pas de sexe. En 1999, lorsqu'il abandonne ses fonctions de secrétaire perpétuel de l'Académie, c'est à une femme que Maurice Druon souhaite explicitement transmettre le flambeau. Et il accède alors à une espèce de liberté joyeuse qu'il gardera jusqu'à sa mort. Travailler à la pureté de la langue, telle avait été la mission confiée à l'Académie dès ses origines par le cardinal de Richelieu. Nul plus que Maurice Druon n'a pris davantage ces mots à la lettre. Juge du langage, telle est l'Académie par essence et par droit, écrit-il en 1995 en préface à la réédition de ses statuts. L'état de la langue française dans le monde, sans parler de son état en France même, dans sa pratique et son enseignement, nous rend aujourd'hui particulièrement sensibles à la force, à la continuité, à l'opiniâtreté de ce combat et à la justesse d'une cause géopolitique à laquelle Maurice Druon s'est passionnément attaché. Non pas seulement défendre notre identité sur notre sol par la défense de notre langue, mais soutenir le droit à la diversité culturelle que réclament de nombreuses nations qui, dans le monde, selon son heureuse expression, ont le français en partage. Cette action en faveur de la langue française est l'héritage premier, essentiel de Maurice Druon, héritage qui devient un devoir imprescriptible quand on a l'honneur de lui succéder. Les exemples de son action abondent. Léopold Sédar Senghor avait été membre de l'Internationale ouvrière. C'est un grand défenseur du français. Maurice Druon sera en 1984 l'artisan de son entrée sous la coupole. Il y va de la grandeur de la langue française. Dès les débuts de la construction européenne, la question s'est posée. Quelles en seraient les langues de référence ? En 1979, appelé par l'archiduc Otto de Habsbourg, Maurice Druon rejoint un groupe fondé par des députés européens afin de promouvoir la langue française et de manifester face au monopole de l'anglais l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis. En 1986, sur une initiative canadienne, le Grand Prix de la francophonie est créé. Répondant à l'Express, Maurice Druon a ces mots. Nous avons particulièrement apprécié qu'en hommage aux plus vieux serviteurs du français, gardien de son usage depuis 350 ans, le gouvernement canadien ait chargé l'Académie de décerner ce prix en toute liberté. L'un de ses derniers combats concernera la féminisation des noms de fonctions. Et on devra reconnaître que ces arguments ne manquent pas de force. De nouveaux usages vont s'imposer, mais il est du devoir de l'Académie de veiller à ce qu'ils n'aillent ni contre la grammaire, ni contre la langue. Mais n'anticipons pas. Suivant l'ordre des événements, revenons donc un peu en arrière. Le 5 avril 1973, Maurice Druon est nommé ministre des Affaires culturelles en remplacement de Jacques Duhamel. Il le restera jusqu'à la mort de Georges Pompidou en mars 1974. Troisième étape d'un parcours que symbolisent les mots qu'il a voulu voir gravés sur sa tombe dans sa propriété de Fès près de Libourne, combattant, écrivain, ministre. Maurice Druon croyait-il vraiment à leur équivalence ? Le combat auquel il était prêt au début de la guerre s'est dérobé. L'exercice du pouvoir n'apportera pas à son image des traits qui la grandissent véritablement. La littérature seule, et il le sait, est un accès à la grandeur véritable. Elle seule peut conférer la véritable légitimité. Alors pourquoi lui avoir préféré quelque temps le pouvoir politique ? Par goût ? Oh, pas du tout, dit-il, mais par amitié pour un homme, Georges Pompidou. Par vanité ? Oh, pas davantage. S'il aime s'entourer des grandes ce monde, c'est pour les conseiller, pour les aider, rien de plus. Oh, et puis après mai 68, le monde culturel était un peu débridé, ajoute-t-il. Il fallait bien remettre les choses sur leur axe. Le résultat est que le fossé se creuse entre Maurice Droyon et une société qui continue d'être soulevée par un vent de liberté dont il ne voit que les dérives. Les excès de la liberté, écrit-il, ne sont pas plus honorables que ceux de l'autorité et sont souvent plus dangereux. Le gauchisme l'a vraiment mis en colère. C'était le fait d'envieux et de paresseux, dit-il. Lui-même a été dans sa jeunesse proche des communistes et alors, c'était un phénomène de génération. À 30 ans, on va vers l'espérance. Et puis, il y a eu le sacrifice des Russes. Mais le marxisme, jamais. La France ne voit donc-elle pas qu'elle est aux ordres d'un cadavre ? C'est le titre d'un de ses pamphlets. Dans ce début des années 70, pour tout un monde d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains, Maurice Druon, ministre, incarne un violent mouvement de retour à l'ordre. Lorsqu'il prononce sa phrase peut-être la plus fameuse, « Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir », une procession funèbre silencieuse se déploie dans les rues de Paris pour symboliser la mort de la liberté d'expression. Je n'y étais pas, j'aurais pu y être. Et pourtant, il y a de la force, de la logique dans ces arguments. Entre subversion et subvention, il faut probablement choisir. Mais les temps avaient changé. Il n'était pas homme à l'accepter. De formidables mouvements irrépressibles bousculent les traditions. Les idées de liberté, d'émancipation, touchent aux domaines fondamentaux de la vie, de la mort. Cela lui est intolérable. Elle ne peut pas, elle ne doit pas changer cette France qu'il a reconnue, qui lui a donné une légitimité, un nom, une langue, et tranchons le mot, la gloire. Elle doit rester ce qu'elle est, et tant pis pour ceux qui pensent autrement. On pourra donc déplorer, mais non pas s'étonner, de le retrouver aux côtés de ceux qui n'acceptent ni la suppression de la peine de mort, ni la libéralisation de l'avortement, ni la reconnaissance du droit des homosexuels à s'unir officiellement. Mais son action ne se réduit pas à ces crispations coléreuses. Il crée l'Association française pour les célébrations nationales. La Caisse nationale des lettres, devenue Centre national des lettres, passe sous la tutelle des affaires culturelles. Des centres d'action culturelle sont créés. Les budgets des théâtres nationaux sont augmentés. La Comédie française rénovée. Il fait classer Orsay. Ne réussit pas à sauver les Halles. Comme plus tard, il ne réussira pas dans son grand projet de faire reconstruire le palais des Tuileries. 40 ans ont passé. Aujourd'hui, devant l'effondrement patent de l'école, marqué par la défiance envers le savoir, envers la transmission, comment ne pas rejoindre le Maurice Druon qui, au milieu des années 80, disait « Jadis, autrefois et même naguère, on apprenait à parler comme on doit écrire. Aujourd'hui, on apprend à écrire comme on ne doit pas parler. » Pour lui, l'école tient en ces mots « L'instruction doit former le raisonnement en même temps qu'elle augmente le savoir. » Pour lui, la culture égale transmission. D'où cette pensée de Marc Aurèle qu'il aimait à citer pénètre dans l'âme de chacun, mais permet aussi aux autres de pénétrer dans ton âme. Et cette devise que chacun devrait faire sienne, qu'il a formulée dans son discours de réception à l'Académie. Je connais ce que je recueille, soupèse ce que je dois maintenir, mesure ce que je souhaite transmettre. Quand on lui disait qu'il était un conservateur, il répondait est-ce qu'il n'y aurait par hasard rien à conserver ? Oserait-on dire aujourd'hui qu'il avait tort ? Comme pour donner à l'œuvre d'une vie un cadre qui s'accorde pleinement à la haute idée qu'il en avait, Maurice Druon achète en 1972, avec son épouse Madeleine, l'abbaye cistercienne de Fès, près de Libourne, fondée en 1137 par Pierre II de Castillon, partiellement détruite à la Révolution. Signature, symbole, éclatant. Héritier d'ascendances multiples et lointaines, Maurice Druon poursuit sa quête inlassable dans la patrie française, dans la langue de France, parmi ses écrivains, dans ses plus hautes institutions. Et pour finir, il en trouva dans son sol et dans son histoire, à un de ses plus hauts moments, le grand renouveau qui, autour de l'an 1000, a marqué l'Occident chrétien, la réforme de Bernard de Clairvaux. de l'abbaye ne subsistait alors qu'un bâtiment du XVIIe siècle, long et majestueux, à deux étages, pourvu chacun d'arcades en façade, dressé au milieu de ruines et lui-même en bien mauvais état. Madeleine et Maurice Druon le feront admirablement restaurer. Et c'est là que Maurice Druon recevra les hommes politiques, tant étrangers que français. Boris Yeltsin, en 1993, des mains de qui il reçoit l'ordre russe de l'amitié des peuples, Viktor Tchernomyrdine, Vladimir Poutine. Ce sont les années où il tente à se confondre avec une figure de lui-même qu'il a lui-même créée. Il est déjà une sorte de monument, la référence d'une époque qui peu à peu s'éloigne. Il a le sens de la grandeur, jusqu'au point où elle risque de tendre à l'ostentation. Des formules trop parfaites roulent dans une voie aux accents trop étudiés. Ses emportements sont célèbres. Il aime les honneurs, les titres, les décorations. Il a une vision, comment dire, empanachée de la France et de son histoire. Une histoire qu'il confond parfois avec celle de sa propre réussite. Il avait une dette envers la France, mais il s'en est si bien acquitté qu'il semblerait parfois que ce soit la France qui en a une envers lui. Avec sa silhouette théâtralement campée, son chapeau incliné sur l'oreille, il est de la race de ceux qui, comme Sacha Guitry, semblaient toujours mettre en scène leur vie. Mais à Fès, c'est aussi un homme qui a trouvé un havre de repos et de paix avec Madeleine, au milieu des livres, des œuvres d'art, des chevaux, des chats. Il y a dans son bureau, à côté de nombreuses photographies d'hommes célèbres, dédicacées du général de Gaulle, une photo de son chat accrochée à son épaule. Là, il rêve, réfléchit, médite, saisit au vol des formules sur son carnet, fait du cheval avec le grand cavalier Pierre Durand, compose ses mémoires, rassemble ses écrits dans de gros volumes qu'il intitule « Circonstances », preuve de son attention constante au temps présent, et tente de mettre en pratique ce que disait Mohamed V à son fils Hassan, sur les destinées de qui Maurice Druon a veillé depuis le milieu des années 50. « Tu auras peu de temps. Ne le prends pas à donner des exemples de bonne foi à des gens de mauvaise foi. » On le sait, Maurice Druon aimait le Maroc. Le Maroc était son autre terre d'élection. Et le Maroc ne lui a peut-être pas rendu assez tout ce qu'il lui devait. Une présence régulière, un attachement profond, une conscience exacte de ce qu'est le royaume chérifien. Et la création d'une académie royale en 1977, sans exemple dans le monde, puisqu'elle comprenait 30 membres marocains et 30 membres étrangers associés. Il rêvait peut-être pour lui-même d'un mausolée comme celui de Mohamed V avec une coupole en firmament. À Fès, où il a choisi de se faire enterrer entre les murs arasés de l'ancienne chapelle, c'est encore mieux. Il a au-dessus de sa dalle funéraire la voûte céleste elle-même. Oserais-je cependant vous retenir encore un instant, mesdames et messieurs de l'Académie, pour tenter une dernière esquisse de cette vie d'exception. Il disait « Je, comme on dit, habitais mon siècle », mais il ne l'aimait pas. Cette France qui lui avait tout donné, conjurant ainsi la malédiction initiale de la naissance, cette France à laquelle il s'était obstinément voué, il lui semblait l'avoir glissée sans retour dans une médiocrité où sa haute et singulière figure se perdrait. Il aurait préféré le temps d'Alexandre, car il y a de grands éléments de bonheur dans la pensée grecque. Il avait écrit les mémoires de Zeus pour tenter de dégager Platon de dessous les évangiles. Croyant de synthèse et non de mystique, il était dans un accord spontané avec toutes les religions, sous toutes leurs formes. Mais il aimait aussi à dire « je ne crois pas, je m'efforce de penser ». Passionnément épris de grandeur, de face, de pouvoir, il était aussi un homme, je le cite, « que rendait heureux la diversité des fleurs et des arbres, l'amitié de ses chevaux, la venue silencieuse de son chat avant la pluie, le sommeil confiant de son labrador. Mais il emportait partout avec lui une fêlure secrète, une faille que rien ne peut jamais combler, ni l'œuvre, ni l'action, ni les honneurs. Comme Alexandre le Grand, il était hanté par l'idée de la vanité des choses humaines. Son dernier mot, il l'a prononcé à 30 ans, dans les grandes familles. « La fin des hommes qui ont réussi » n'est pas plus heureuse que la fin des hommes qui ont échoué.
Madame, nous nous sommes connus dans un train. Nous avons parcouru ensemble, pendant 3 semaines, 9 288 kilomètres. Traversé l'Oural, la taïga et la steppe, relié l'Europe à l'Asie, franchi des fleuves larges de 3 kilomètres, longé un lac long de 800 kilomètres, nous arrêtant dans des gares en forme de palais russes, de châteaux cosaques, de mosquées, de locomotives, sans nous douter que cette épopée ferroviaire, cette magnifique aventure du Transsibérien, aboutirait pour vous, madame, à la plus prestigieuse de toutes les gares au monde, la coupole que voici. Vous ne vous mettez pas en rejoignant notre compagnie sur une voie de garage. Vous entrez dans une gare où vous verrez se croiser les idées, les discussions, les disputes intellectuelles et linguistiques dans un trafic incessant des choses de l'esprit. La Loire, au bord de laquelle vous êtes né, dans un petit village de l'Anjou, n'est pas très éloignée de la Seine que vous apercevrez de vos nouvelles fenêtres. Et pourtant, quelle distance entre le lieu de votre origine et celui de votre consécration. Les quelques 10 000 kilomètres qui séparent Moscou de Vladivostok sont peu de choses auprès de la fracture sociale que vous avez eu à surmonter pour vous élever de l'obscurité paisible d'un milieu campagnard au premier rang de la vie littéraire. Vous n'êtes pas une héritière. Vous représentez un de ces cas d'ascension sociale dû à la seule force de l'esprit, exemples qui ne sont pas exceptionnels dans l'histoire de France, tout en restant assez rares. Et c'est la beauté et le courage de ce parcours qui ont contribué, madame, à toucher notre cœur autant qu'ils ont nourri notre admiration. Dans ce village de l'Anjou, quelques rues en étoiles autour d'un clocher, votre mère était institutrice. Et toute petite encore, lorsque vous étiez assise au fond de sa classe et que vous leviez la main pour lui demander la parole, vous vous adressiez à elle en lui disant « vous » et en l'appelant « madame ». Elle, votre mère, avec laquelle vous habitiez dans l'école elle-même, mais qui, en dehors du cadre domestique, dans l'enceinte sacrée de la salle de classe, n'aurait pu être ni tutoyée ni qualifiée de maman. Vous ne serez donc pas dépaysée ici. Vous avez remarqué que je m'adresse à vous sous le nom de « madame » et que je vous sois, malgré 3 semaines de camaraderie ferroviaire. Nous pratiquons l'égalité académique, comme le recommandait d'Alembert. Et dans cette égalité académique, où tout le monde mérite le même respect et la même appellation, vous retrouverez avec plaisir un des plus beaux usages de votre passé angevin. Vous ne serez pas étonné d'entendre, dans nos séances plénières, les amis les plus intimes se donner du « vous », du madame, du monsieur. Quand nous pensons Anjou, nous songeons à Joachim du Bellay et à la douceur dont, perdu dans les grandeurs et les intrigues de Rome, le poète avait la nostalgie. Vous, madame, avez pris très tôt une autre idée de cette province, une idée moins utopique, moins endormeuse, plus réaliste, plus meurtrissante. Votre mère vous raconta que, lorsqu'elle était venue occuper son poste, à l'âge de 25 ans, le maire du village lui avait dit « Je suis forcé de vous accueillir, mademoiselle, mais je ne vous serre pas la main. » Cette jeune fille représentait l'école publique, l'école laïque, en ces temps où la guerre religieuse faisait rage. Les bâtiments de l'école étaient en mauvais état. La municipalité refusa de financer les travaux nécessaires. Une de vos grand-mères était également institutrice et, en 1905, après la séparation de l'Église et de l'État, on avait ôté le crucifix qui ornait la salle de classe. Aussitôt, la classe était vidée. Les parents retirèrent leurs enfants de ce qu'ils appelaient l'école sans Dieu. Sans Dieu, quel scandale ! Votre grand-mère se retrouva avec 2 seuls élèves. L'un des deux était son fils, votre père. Région de vignobles fameux, l'Anjou est parsemée de petits châteaux dont les propriétaires faisaient pression sur leurs employés pour qu'ils missent leurs enfants à l'école religieuse. Lors des fêtes, dites « rogations », même ceux de ces ouvriers qui étaient agnostiques avaient l'obligation de suivre les processions et de s'incliner devant les autels dressés le long des rues. Chez les riches, jamais un domestique n'était appelé « monsieur ». On l'appelait par son prénom quand il était jeune, puis, lorsqu'il avait gagné de l'âge, père un tel. La guerre religieuse n'était que le prolongement de la ségrégation sociale. De toutes ces pressions, de toutes ces discriminations, de cette collusion entre l'Église et l'argent, vous avez, madame, pris une idée précoce de ce qu'est la lutte des classes. Vos options politiques futures ont planté leurs racines dans vos expériences d'enfant. Femme de caractère et de conviction, nous accueillons en vous quelqu'un qui eût obtenu les suffrages d'un Voltaire ou d'un Victor Hugo. Votre père, prisonnier de guerre et que vous n'avez connu qu'à son retour de captivité, était aussi instituteur. Instituteur, institution des enfants, au sens que donnait Montaigne, institué, c'est-à-dire instruire et former par l'éducation. Vous êtes resté fidèle à ce vocabulaire et à cette idéologie. Vous regrettez à présent qu'une niaise démagogie est remplacée par une ronflante inflation instituteur par professeur des écoles. Quant à vous, après être passé par le lycée d'Angers, par l'école normale supérieure, par l'agrégation des lettres classiques, par le doctorat, selon l'ascension républicaine rituelle, vous avez enseigné à la faculté de Nanterre, sans cesser de vous penser et de vous dire instituteur d'université. Votre thèse portait sur le neveu de Rameau, sujet qui ne nous étonne pas. Aujourd'hui, dans votre chronique hebdomadaire sur France Culture, intitulée « Les idées claires », vous continuez, fidèle à Montaigne et à Diderot, ce travail pédagogique. Idées claires, têtes aussi bien faites que bien pleines. Vous avez foi dans les livres, dans ce qu'ils nous transmettent, les livres que vous avez commencé à lire à l'école primaire et qui vous ont aidé à vous émanciper, les livres sans lesquels personne ne peut réussir à devenir lui-même, les livres que vous appelez, dans une belle formule dont vous avez fait un de vos titres, le don des morts, legs qui vous paraît bien menacé aujourd'hui. Que restera-t-il bientôt pour eux, vous demandez-vous, dans un univers où la poursuite du bonheur est devenue le rêve commun, quoique inégalement couronné de succès, d'une société en proie à la loi triplement féroce de l'argent, du profit et de la consommation. Un monde où le temps de l'existence est cruellement, absurdement partagé entre le travail et le loisir. Un monde où l'art lui-même risque de devenir un bien de consommation parmi d'autres. Un monde où le tour organisé remplace le voyage. La visite guidée, l'approche personnelle du tableau. L'abonnement en série, le choix d'un spectacle de théâtre. Le débat télévisé, le colloque singulier entre le livre et son lecteur. Quel chemin pourront donc se frayer encore les livres dans un univers trépidant et morne où, sous la fébrilité de l'information et la futilité du divertissement, on voit se dissoudre jusqu'au nom d'œuvre. Ces lignes ont été écrites, ont été publiées en 1991. 20 ans après, il est encore plus nécessaire de les entendre. La pratique du livre recule parce qu'elle demande un effort personnel et que tout effort personnel est considéré comme une atteinte au droit de ne rien faire, puis comme un affreux symptôme d'élitisme. Prévaut le concept de culture, vague notion, qui comprend les devoirs rituels d'aller voir une exposition où l'on s'ennuie, ou de lire un auteur à la mode, parce qu'il n'a rien à dire. Comme vous avez raison, madame, de réclamer pour l'œuvre la primauté qu'elle a perdue. L'œuvre, dites-vous, est un commencement. Il y a dans le monde, grâce à elle, quelque chose qui n'y était pas. L'œuvre s'enracine dans la conscience du temps perdu, de la vie qu'on perd en travaillant à la gagner. Ainsi, l'œuvre est la réponse à la misère de vivre, qui n'est pas la misère tout court. Celle-là demande d'autres réponses et d'autres solutions. Mais la misère terrible d'une existence circulaire, piégée par la nécessité et dont toutes les forces sont consacrées à l'entretien de la vie. Fier plaidoyer en faveur d'une véritable connaissance du monde et de soi-même. Apostrophe bienvenue contre le conformisme intellectuel paré des plumes de la culture. Gardons-nous cependant de voir en vous, madame, une militante sèche et aride, une sorte de nonne laïque claquemurée dans ses principes. Comme tant d'autres Français, comme celui qui vous parle, C'est un pays étranger, où pourtant on ne lit guère. Un pays paresseux et émotif, mais imbattable pour l'art de vivre. Le pays le plus doué pour le bonheur, qui vous a sauvé du dogme. Enivré de ses parfums, bercé dans ses délices, assoupli, attendri, recomposé selon d'autres modèles. L'Italie. Oh, cela ne s'est pas fait d'un seul coup. Lors de votre premier voyage à Rome, en 1961, vous n'eûtes Dieu et de cœur que pour le Forum, le Palatin, le Colisée, les ruines antiques. Le poids de l'auguste Urbs vous empêcha d'admirer, de remarquer même, le décor baroque, pourtant omniprésent et si voluptueusement érotique. Vous pouviez traverser Piazza Navona sans prêter attention ni à la fontaine des fleuves, ni à l'église Sant'Agnese de Borromini. Vous êtes tout excusé, puisque cette cécité était celle de votre génération et de bien des générations avant la vôtre. Tel Stendhal, nous trouvant à dire de Caravage que ce peintre était un scélérat, vous avez négligé de regarder les tableaux de San Luigi dei Francesi et de Santa Maria del Popolo. Quand, à quelle occasion avez-vous découvert la merveilleuse vitalité du génie italien qui rebondit de siècle en siècle et, après avoir dressé les colonnes verticales de Trajan et de Marc Aurèle, a préféré se rouler dans les courbes et les contre-courbes de Bernini. Vous êtes retourné à Rome, puis avez visité Venise, puis la Toscane et l'Ombrie, où vous avez puisé, non le sujet, mais le titre de votre roman le plus connu, « Les portes de Gubbio ». Cependant, le véritable déclic, je crois, est venu de la musique. Et, si je vais m'attarder un peu sur cet épisode, c'est qu'il concentre et résume les deux faces de votre tempérament. En 1965, vous avez 25 ans. Et voici qu'à vos oreilles résonne une œuvre inouïe, une des plus belles jamais écrites, qui vous donne sur le champ l'envie d'apprendre la langue en laquelle elle est chantée. Quelle chance vous avez eue d'être conduite au cœur de la beauté italienne par Monteverdi. Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Les paroles sont du Tasse. Le paladin Tancrède, qui prend Clorinde, habillé en chevalier pour un homme, la provoque en duel. Bataille furieuse, écrite dans un nouveau style, stile concitato, agité, propre à exprimer les tempêtes de l'âme. « Que viens-tu m'apporter ?» demande Clorinde à Tancrède. « Et la guerra e la morte !» répond celui-ci. Et elle, « Guerre et mort, je te les donnerai, si c'est ce que tu veux. » Mais c'est Tancrède qui l'emporte et découvre épouvanté qu'il a tué la femme qu'il aime. Il a le temps de lui donner le baptême. Avant qu'elle ne meure sur ces mots, le ciel s'ouvre devant moi et je m'en vais en paix. Cette œuvre exalte deux grandes passions, la colère et l'humilité. Sous ce double étendard, madame, vous écrirez vos livres. Vous serez conquérante, mais sans arrogance. Ferme, mais sans agressivité. Décidée, mais sans sectarisme. Vous intitulerez « Castor de guerre », votre beau livre sur Simone de Beauvoir, sans cacher les erreurs de jugement, voire les forfaitures de celle pour qui vous professez une si juste admiration. À l'autre Monteverdi, au Monteverdi lyrique et tendre, vous emprunterez le goût des sonorités italiennes, ce mélange de déclamation et de douceur qui vous séduira dans les textes de Pier Paolo Pasolini et d'Italo Calvino, dont vous nous donnerez des traductions sans défaut. Et puis, de votre fréquentation de Venise, sortira celui que je tiens pour votre meilleur roman, La Fraga. Étrange titre, italianisation hasardeuse de l'allemand Die Frage, la question, mot cosmopolite en quelque sorte, qui montre votre désir d'interroger le monde, de sauter par-dessus les frontières, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Votre héroïne, une Américaine de la fin du XIXe siècle, fille d'un pasteur, arrive à Venise comme gouvernante d'une jeune demoiselle de Boston. D'abord engoncée dans des peurs et des pudeurs puritaines, elle s'émancipe peu à peu, découvre l'amour et l'art, devient elle-même peintre, accède à la liberté, mais à travers tant d'épreuves et de souffrances qu'il faut reconnaître que vous n'avez pas écrit ce roman à l'eau de rose, mais en trempant votre plume dans ce que Paul Morand appelait l'eau noire des canaux. S'il y a un passage que je citerai, c'est celui où vous soutenez qu'il y a pour toute femme un moment où elle n'est jamais laide. Marie Gordon n'était pas une femme laide, on s'en fout, mais si belle que dans une femme, une chose lui manque toujours, lorsqu'elle n'a pas été désirée par un homme pour qui il n'y a pas de femme laide. Paradoxe ? Non. Ce qui compte n'est pas d'être reconnu et désiré pour sa beauté, c'est d'être reconnu et désiré dans une absolue égalité avec toutes les autres femmes, objets de ce même désir. Telle est, madame, votre credo féministe. Sur la beauté donnée passive, vous donnez la priorité au désir, force active. Credo énoncé dans une langue simple, claire, écho de la loyauté qui est au fond de votre pensée, reflet de l'énergie qui la gouverne. Votre Venise est sans cliché, ce qui est un tour de force. J'ai seulement été surpris de voir un de vos personnages découpé de larges tranches de San Daniele. On peut tailler dans un jambon des tranches minces ou épaisses, mais larges. Ce me semble impossible, le jambon n'ayant qu'une largeur à l'endroit où on le coupe. En revanche, j'ai relevé, dans ce vocabulaire démocratique que vous privilégiez, deux mots rares qui seront vos billets d'entrée pour notre commission du dictionnaire. Nous sommes, comme vous le savez, des maniaques de la langue. Nous traquons les mots oubliés, comme les cochons déterrent les truffes. Quel bonheur de passer près d'une trattoria d'où s'échappent des odeurs alicientes, mots ignorés de tous les dictionnaires, y compris du nôtre. Puis de se promener le long d'un canal et d'admirer, dans ce lent enfoncement des eaux, la brusque surrection des palais. Cependant, l'Italie n'aura été qu'une étape. Le farniente sous les treilles, l'hédonisme en gondole, le tourisme en savate, très peu pour vous, au fond. De là où il n'y a pas à témoigner, à combattre, vous vous éloignez vite. À la fin des années 1970, vous découvrez une autre Europe. Non seulement des villes et des paysages nouveaux, mais une autre façon de concevoir les choses, un sens de la vie radicalement différent de celui qui prévaut à Paris comme à Rome. Vous découvrez l'Est, la Russie, les pays communistes, Moscou, avec Antoine Vitez, envers lequel vous avez toujours reconnu votre dette et dont vous ne parlez jamais sans émotion. Prague, Brno, la ville de Janáček, qui deviendra votre musicien préféré avec Shostakovich, deux immenses compositeurs, dont le premier est alors ignoré en France et le second calomnié. On stigmatise sous l'épithète injurieuse de stalinien celui qui a été persécuté par Staline. Le huitième quatuor de Shostakovich vous impressionne tellement que vous envisagez la possibilité d'écrire l'histoire de l'esprit européen sous l'angle de la musique. Un premier aperçu de la Russie, vous l'aviez eu tout enfant, lorsque, à la fin de l'occupation, vous voyiez les soldats allemands rescapés de Stalingrad et envoyés en permission, efflanqués, hâves, achetés dans l'épicerie de votre village du beurre qu'ils léchaient et avalaient en pleine rue comme un gâteau. En 1975, après la publication de votre premier livre, Aragon, vous avez dit « Ma petite fille, vous êtes maintenant un écrivain. Peut-être pensez-vous que les écrivains ont besoin des éditeurs. Détrompez-vous. Ce sont eux qui ont besoin de nous. » Sous cette boutade, vous deviniez qu'il y avait peut-être une contrée utopique où l'écriture était autre chose qu'une marchandise. Enfin, vous allez voir par vos yeux ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Et vous êtes, parmi tous les visiteurs occidentaux, un des rares à qui le préjugé n'impose pas une image exclusivement négative de la vie à l'Est. Vous découvrez des gens qui lisent, qui écoutent de la musique uniquement par amour et besoin de la musique, et jamais par snobisme, qui ont foi dans la culture, qui s'arrachent en quelques heures une édition d'Apollinaire, qui prennent au sérieux la littérature et ne la réduisent pas à un laboratoire de recherche formelle. Des gens que la littérature aide à vivre. Le contraire de ce qu'avait lieu en France, où dominait le nouveau roman et où le public se reconnaissait de moins en moins dans des livres qui avaient renié l'idéal stendhalien d'être des miroirs promenés le long de la route. À l'Est, la littérature avait gardé sa fonction primordiale, qui est d'être là où se produisent les choses importantes, de témoigner, de se battre, d'opposer une résistance au pouvoir, à toutes les formes d'étouffement de la pensée, mission de fronde et de dissidence, but oublié, trahi, là où l'existence est plus facile, l'esprit moins éveillé et la littérature entraînée sur la pente savonneuse de l'écriture pour l'écriture. Ces expériences de l'Est sont pour vous capitales. Elles vont vous aider à réorienter vos devoirs et votre vie d'écrivain. En repassant de Berlin-Est à Berlin-Ouest, vous êtes soulagé, bien sûr, de retrouver la liberté, mais non sans éprouver un bizarre sentiment d'oppression, comme vous l'avez écrit dans « Passage de l'Est ». Partout règne sans partage l'économie libérale, la course à l'argent, l'abondance, quelque chose a été perdu. On vit bien mieux à l'Ouest, c'est certain, mais en même temps bien plus mal, si l'on songe à une certaine dimension de l'être rogné par le bien-être. Où sont les valeurs qui comptent vraiment ? Dans l'opulence scintillante des supermarchés ou au fond des cafés miteux de Prague où les poètes se réunissent pour se lire leurs vers ? Dans la profusion du superflu ou dans la frugalité du nécessaire ? La frénésie et la futilité de la consommation peuvent-elles tenir lieu d'idéal ? Au malheur socialiste a succédé le malheur capitaliste. La victoire sur le despotisme rouge eût été plus convaincante si ce que l'Occident proposait en échange avait été de meilleure qualité. Mais, comme vous le dites encore dans le même livre, souvent il m'a semblé, devant le spectacle de l'Europe divisée en deux, que cette double Europe incarnait la double caricature du rêve ancestral des pauvres gens. Et lorsque, durant les années 80, dans Budapest, mieux fourni en gadgets occidentaux, on voyait des groupes de garçons et de filles, le visage crispé de convoitise, devant des jupes ou des jeans blanchis à la pierre ponce, vendus pour le prix quasiment d'un salaire mensuel. Ce n'est pas leur misérable folie qui me serrait le cœur, c'était la nôtre surtout, et la pauvreté du modèle que nous offrions. Les voyages dans un pays de l'Est n'auraient pas compté autant pour vous, madame, s'ils n'avaient recoupé en quelque sorte les souvenirs de votre enfance. Revenons à votre village natal, où vos parents et les parents de vos parents étaient pauvres et rêvaient d'une société moins injuste. En allant visiter la Tchécoslovaquie, la Russie, vous espériez secrètement, sans doute, leur procurer comme une revanche posthume, quitte à déchanter aussitôt. Devant l'échec de la société communiste, votre sentiment de frustration, votre douleur ont été doubles. Pourquoi cette brutalité dans le désenchantement ? Réponse. Je vous cite, « Ce n'est pas seulement que le socialisme s'effondre et avec lui la croyance dans un monde nouveau qui n'a montré que l'horreur de son visage, c'est aussi le retour à ce que nous avons haï, le cynisme marchand, l'effronterie de la liberté retrouvée, la cruauté du marché. Qu'est-ce que le socialisme ? Dit une blague polonaise. La voie la plus longue et la plus sanglante du capitalisme au capitalisme. Une blague, oui, il n'y a pas d'autre moyen qu'une blague pour exprimer l'horrible désillusion qui a suivi la chute de la tyrannie. Car nous pouvions déjà entrevoir une Europe réunifiée dans une euphorie triste, comme une galerie marchande s'étendant de l'Atlantique à l'Oural, parcourue en tous sens par des familles en survêtement, l'air fébrile et déjà vaincu. Peu d'écrivains, je crois, ont été sensibles comme vous à ce drame d'une victoire nécessaire mais aussitôt confisqués, volés, détournés, avilis. Les souvenirs de votre enfance, la loyauté envers vos origines, ajoutés à vos expériences politiques et au double constat que vous avez fait du malheur social dans l'un et dans l'autre camp, ont déterminé, forgé votre conception de l'écriture. La plus grande souffrance des hommes est qu'ils sont privés de la parole. Au mutisme des foules, seul l'écrivain peut remédier, à condition qu'il s'attache à des sujets qui en valent la peine, qu'ils ne se perdent ni en expérience de laboratoire, ni en narcissisme stérile, mais qu'il exprime, lui qui en a les moyens, ce que les autres sont condamnés à taire. Au fond, dites-vous de vous-même, dans un livre d'entretien, au titre proustien, « La vie éclaircie », je pensais que j'étais juste une espèce de maillon d'étape, d'intermédiaire dans le grand processus d'objectivation du monde, qui, pour exister, doit passer par des consciences qui le réfléchissent, le traduisent, lui donnent forme. Cette idée à la fois fière et humble de votre métier vous a tenu éloigné à la fois du minimalisme chic du nouveau roman et de l'incontinence débraillée de l'autofiction. Vous citez volontiers ce mot de Brecht. Si le monde n'a plus sa place dans le théâtre n'a plus sa place dans le monde. Vous, de votre côté, affichez ce credo. Écrire, ce n'était pas devenir écrivain ou alors comme l'écrivain public qui prête sa plume à qui ne l'a pas. Moi, c'est aux choses du monde que je voulais prêter ma plume, au mouvement du monde, aux histoires vécues ou imaginées qui restent inachevées tant qu'elles n'ont pas été traduites dans le langage. Des histoires imaginées, comme celles que vous racontez dans « Viol », récit d'un fait divers criminel en milieu ouvrier, construit en une suite de dialogues entre une enquêteuse et une femme dont le mari est en prison pour avoir violé sa belle-fille. Si fin et délicat que soit ce roman, car c'est une œuvre de pure fiction et non un reportage, sur un argument aussi périlleux, si habilement que vous fassiez remonter les événements à la lumière, je crois que vous êtes plus à l'aise dans l'essai que dans le roman. Les histoires vécues conviennent mieux à votre nature combattante et à votre désir de communiquer ce qui vous tient à cœur. Ainsi, dans ce qui est à ce jour votre ouvrage le plus considérable, dans les deux sens, par les 600 pages du volume et par l'ampleur du sujet traité, vous nous racontez la vie et la pensée de Simone de Beauvoir. Ce qui est très fort dans ce castor de guerre, c'est que vous n'y dévoilez jamais votre véritable propos, qui ressort de lui-même après lecture. Il eût été très maladroit de dire tout de go, Simone de Beauvoir est beaucoup plus intéressante que Jean-Paul Sartre. Elle a beaucoup plus de choses intéressantes et vraies à nous dire. C'eût été une levée de bouclier, un tollé. Vous, madame, tranquillement, vous montrez comment Simone de Beauvoir, lorsqu'elle prenait la parole, savait de quoi elle parlait. Son combat féministe était appuyé sur une solide expérience personnelle et une sérieuse étude du problème. Sartre, lui, tranchait à tort et à travers, sur la nature du roman, sur la Russie de Staline, sur Pasternak, sur Cuba. Au sujet du roman, permettez-moi de vous corriger sur un point. Ayant cité le verdict tapageur de Sartre, « Dieu n'est pas un artiste, M. Mauriac non plus », vous dites que l'auteur de Thérèse Descayrou ne s'est jamais remis de cette condamnation. Je vous assure qu'il n'en est rien. S'il a reçu sur le moment un knockdown sérieux, Mauriac s'en est vite relevé et il a gagné au point, tout le monde le sait, sur le romancier pâteux des chemins de la liberté. Bien plus grave, évidemment, ont été les irresponsables divagations de Sartre sur le communisme et sur l'URSS. Là, vous êtes intraitable, sensible comme vous l'êtes à tout ce qui touche à l'Europe de l'Est. Sartre ne voyait pas, ou ne voulait pas voir ce qui se passait derrière le rideau de fer, sa seule passion étant de juger, de prononcer des arrêts. Et quels arrêts ? Par exemple, revenir de Moscou en 1954 et déclarer à la presse « La liberté de critique est totale en URSS et le citoyen soviétique améliore sans cesse sa condition au sein d'une société en progression continuelle. » N'était-ce pas avalisé, avec son prestige alors immense, un mensonge criminel ? Sans doute ne lui avait-on présenté de la Russie qu'une façade présentable. Ce n'est pas une excuse. André Gide, 16 ans plus tôt, invité officiel lui aussi, avait montré une autre lucidité. Vous le dites, vous auriez pu ajouter que Gide avait fait preuve aussi de beaucoup de courage. Toute la gauche lui tomba sur le dos alors qu'elle entoura d'un murmure flagorneur les boniments de Sartre. On regrette que Simone de Beauvoir, par solidarité conjugale, n'ait pas tenté de dessiller les yeux de son compagnon. Le suivant même, lors de l'affaire Pasternak, dans l'affreuse partialité des sectaires, le couple commit cette faute impardonnable d'emboîter le pas à Khrouchtchev. Réduire le docteur Jivago à une aubaine pour la bourgeoisie et son antisoviétisme, c'était céder au slogan de la plus basse propagande. Qualifier ce roman de pavé de brume compacte, C'était un tel déni de justice qu'on souffre de voir une femme si intelligente méconnaître à ce point la grandeur d'un livre. Vous la reprenez durement lorsque, à ses jugements primaires, elle ose ajouter « Pasternak ne m'apprenait rien sur un monde auquel il semblait s'être fait délibérément aveugle et sourd. » Mais si, Castor, ainsi l'apostrophez-vous, ce livre vous apprenait beaucoup, car ce n'est pas le livre d'un homme qui refuse de voir, c'est le livre d'un homme qui a vu. Voilà le point important. Il vaut mieux voir avant de juger. Et Sartre, resté un éternel normalien, enfermé dans un système qu'il se gardait de vérifier, a mené en bateau toute une génération. Vous, madame, vous voulez voir, et vous savez voir. J'en arrive à l'étape la plus cruciale de votre parcours. En 1997, vous êtes invité par les 5 centres culturels français de Palestine, implantés dans 5 villes de la Cisjordanie, ville confiée à l'autorité palestinienne, tout en restant isolées l'une de l'autre, au milieu d'un territoire contrôlé par l'armée israélienne. Vous étiez parti en sympathisante d'Israël. Tout vous portait à vous ranger du côté de l'État qui avait recueilli ce qui restait du peuple juif. Vous étiez, avant de partir, la première à condamner l'aveugle violence terroriste. Mais, à peine arrivé dans le quartier palestinien de Jérusalem, vous découvrez ou redécouvrez la réalité de l'occupation militaire. Celle-ci est semblable à toutes les occupations, brutale, abusive, inique pour les vaincus. Des souvenirs de la guerre d'Algérie et en remontant plus haut de l'occupation allemande en France vous reviennent à l'esprit. Dans une rue du quartier arabe, vous voyez des soldats israéliens pousser du pied le panier d'oranges d'une vieille femme. Les fruits roulent dans le caniveau, toute la marchandise est perdue. Vous êtes offensé dans votre sens de la justice, mais vous êtes aussi blessé dans votre amour pour Israël. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit ses amis se déshonorer. Vous relatez parmi d'autres ce témoignage dans « Le carnet de route en Palestine occupée », livre de colère, mais aussi de douleur. Douleur pour la politique d'Israël, si contraire à ce qu'on attendait d'une nation née du sang des martyrs. Douleur pour les souffrances du peuple palestinien opprimé. Douleur pour la désinformation dans les médias occidentaux. Douleur pour la version unilatérale des faits. Je cite « Pourquoi avons-nous nié le peuple palestinien, nous qui avions soutenu partout le droit des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination ?» Ce cri parcourt tout le livre, qui n'est nullement un acte de militantisme politique, mais la voix d'une conscience outragée par un déni de justice. Que de chemin parcouru en vous-même depuis vos voyages en Italie. Devant le spectacle des villages arabes rasés, des milliers de maisons détruites, des populations acculées à des conditions de vie misérables, impossible de profiter en touriste de la douceur du climat, de la beauté du paysage, de la splendeur des sites. « Oh, vous écriez-vous, où est l'époque où je n'avais vu d'autres ruines que celles de la Grèce et de Rome ?» Le livre paraît en juin 1998. Pierre Vidal-Naquet en fait un compte rendu élogieux, mais le journal Le Monde en retarde la publication jusqu'à la fin du mois d'août. C'est dire le courage qu'il vous avait fallu pour braver le politiquement correct en vigueur. En avril 2002, le camp palestinien de Jénine est attaqué et détruit par les forces d'Israël. On estime à quelques 500 les victimes. Le dirigeant travailliste Shimon Peres qualifie l'opération de massacre et l'organisation humanitaire internationale Human Rights Watch la dénonce comme un crime de guerre. À la suite de l'émotion soulevée, vous décidez de co-signer avec Edgar Morin et Sami Nahir un manifeste publié par Le Monde en juin 2002. Texte retentissant qui commence par les mots fameux de Victor Hugo « Dans l'opprimé d'hier, l'oppresseur de demain ». Cette philippique intrépide ne plaira pas à tout le monde. Deux passages surtout motivent une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Nanterre pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Je cite ces deux passages car elles donnent la mesure à la fois de la droiture de votre jugement et de l'erreur de ceux qui vous l'ont reproché. Premier passage incriminé. Ce qu'on a peine à imaginer, c'est qu'une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations, non seulement un peuple dominateur et sûr de lui, mais, à l'exception d'une admirable minorité, un peuple méprisant, ayant satisfaction à humilier. Les médias rendent mal les multiples et incessantes humiliations subies au contrôle, dans les maisons, dans les rues. Cette logique du mépris et de l'humiliation, elle n'est pas le propre des Israéliens, elle est le propre de toutes les occupations où le conquérant se voit supérieur face à un peuple de sous-humains. Second passage, et nous voici à l'incroyable paradoxe. Les Juifs d'Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les Juifs victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les Juifs, boucs émissaires de tous les maux, boucs émissarisent Arafat et l'autorité palestinienne, rendus responsables d'attentats qu'on les empêche d'empêcher. Ce jugement, fondé sur l'observation, était d'ordre historique et politique et n'impliquait aucun présupposé idéologique, comme le reconnut le tribunal de Nanterre. Ou fut relaxé tous les trois, mais condamné ensuite par la cour d'appel de Versailles. Vous n'eûtes alors pas de meilleur garant de la justesse et de la nécessité de votre combat qu'au communiqué de l'Union juive française pour la paix, qui estima l'arrêt de cette cour d'appel absurde et scandaleux, et vous apporta le plein soutien de ceux des Juifs qui exaspèrent l'amalgame entre critique de la politique israélienne et antisémitisme. Voici les mots exacts de l'Union juive française pour la paix. Les textes incriminés portent un jugement sur une politique qui engage les citoyens d'un État et non les Juifs du monde. Aucune instance judiciaire ne peut décider que l'État d'Israël est l'État de tous les Juifs. On peut alors penser que le procès intenté par des organisations juives à Edgard Morin, Sami Nahir et Daniel Salnav est un acte de confiscation des Juifs au profit de l'État d'Israël, et par cela même, un acte anti-juif. La protestation était forte. Retourner l'accusation, c'était innocenter ceux qui réfléchissaient sérieusement aux moyens de guérir ce que le Manifeste du Monde appelait le cancer israélo-palestinien. La Cour de cassation intervint à son tour. Elle vous lava de tout soupçon de diffamation raciale et vous donna pleinement raison. Vous n'aviez fait qu'exprimer une opinion dans un débat où chacun a le droit de donner la sienne. Le carnet de route en Palestine occupée, comme le Manifeste du Monde, vous en valut de fortes inimitiés. Que ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous me permettent de saluer votre lucidité, votre honnêteté, votre courage. Apaisons-nous. Constatons que ceux qui vous ont cherché noise vous connaissaient mal. Car dès vos premiers textes, que ce fussent des essais ou des romans, vous avez toujours combattu dans le rang de la justice. L'héroïne de la Fraga, qui conquiert peu à peu sa liberté en se dégageant du carcan de l'éducation puritaine, Simone de Beauvoir, que vous admirez en particulier pour le deuxième sexe et son engagement féministe, Boris Pasternak, dont la condamnation vous indigne, les Palestiniens, forcés de recourir à des moyens illégitimes qui vous révoltent, mais qui sont la conséquence d'une oppression illégitime qui vous ne révolte pas moins. Autant de figures qui vous dépeignent vous-même, de votre intraitable souci de vous tenir là où se tiennent l'indépendance, la dignité, la vérité. Vous avez subi ici même des avanies pour votre hardiesse, un camouflet pour votre cran. Chacun s'en souvient. En vous accueillant aujourd'hui, madame, dans cette compagnie, qui n'est pas spécialement fière d'avoir repoussé à 24 reprises la candidature d'Émile Zola, je vous invite à ne jamais baisser les bras. Vous êtes d'abord un écrivain, vous avez à votre disposition la meilleure arme possible contre le découragement. Vous avez cité vous-même dans Passage de l'Est, l'admirable phrase de Thomas Mann, que je citerai à mon tour pour finir, tant elle me semble pouvoir servir de devise à chacun d'entre nous. Tonio Kröger avait coutume de dire que la connaissance de l'âme mènerait infailliblement à la mélancolie si le plaisir que donne la recherche de l'expression ne nous maintenait alerte et gaie.
Vous pouvez lire l'intégralité de ces discours sur le site de l'Académie française. Sur Canal Académie, vous pouvez écouter la retransmission de toutes les séances académiques qui se tiennent sous la coupole de l'Institut de France. Et sur la page d'accueil de Canal Académie, il vous suffit de taper dans « Rechercher » en haut à droite le mot-clé « coupole ».